On peut faire du bon compost avec énormément de systèmes, mais on peut faire du mauvais compost avec tous les systèmes. Donc c'est pas le système qui est important, c'est comment on le travaille. Hein. C'est ça le point important. Et puis il y a environ 40% de théorie à savoir, et puis le reste c'est l'expérience, la pratique, et puis voilà.
La Ferme, un podcast terre à terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout, ce qui compte, ce n'est pas la taille. C'est le goût. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Fuchs, spécialiste du compost. Grâce à lui, je vous propose de découvrir les multiples facettes de ce produit. Comment le faire, l'entretenir et surtout l'utiliser. À la fois outil de recyclage des matières organiques et de stabilisation des sols, le compost n'aura bientôt plus de secret pour vous. Alors préparez-vous à mettre les mains dans la terre et les bonnes odeurs de compost mûr, pour 30 minutes en compagnie de Jacques Fuchs. Et pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient aller plus loin, n'hésitez pas à consulter son site biofit.ch. Parfait, alors bienvenue Jacques Fuchs dans La Ferme, le podcast, et merci de nous accorder un petit moment pour parler aujourd'hui du compost, qui est une des pratiques assez intéressantes dans les micro-fermes, puisqu'on a besoin de rajouter à manger dans les sols. Alors peut-être prendre un petit moment pour te présenter, qui es-tu, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce compost ?
Bonjour, donc je m'appelle Jacques, je suis agronome de formation. Après ma formation d'agronomie, j'ai fait une thèse sur la biologie des sols, sur la lutte biologique avec des bactéries et des champignons contre les maladies du sol. Et là, je me suis dit qu'on pourrait mettre ces micro-organismes dans les composts pour les amener dans le sol. Et c'est là que je me suis rendu compte que les composts de lui-même a une action très bénéfique contre les maladies des plantes. Et c'est là que je suis arrivé à travailler avec le compost. Donc, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur la qualité des composts, optimiser le processus pour avoir des bons composts et puis optimiser après l'utilisation des composts.
Ok, donc les composts, c'est pas juste de la nourriture, c'est aussi utile pour lutter contre les maladies.
Exactement. Contrairement aux autres engrais, le compost, c'est une matière vivante qui contient des tas de micro-organismes qui interactent avec les micro-organismes du sol. Donc c'est ce qui le différencie d'autres engrais, même d'autres engrais organiques.
Ok. Ces micro-organismes, c'est quoi, pour qu'on comprenne bien?
Alors, c'est des bactéries, des champignons, qui se développent pendant la phase de compostage. Au début du processus, on a plutôt des bactéries, et après, pendant la maturation, on a plutôt des champignons qui viennent, qui attaquent le bois, etc. Et puis, dans ces champignons et bactéries, il y a une grande partie qui sont après des antagonistes naturels, qui après, justement, permettent de protéger les plantes, ou en tout cas de diminuer la pression des maladies dans les sols.
Ok. Et donc, on va reprendre un peu la base de c'est quoi le compost? C'est quoi ces différentes phases? Comment c'est fait? C'est fait à partir de quoi? Comment on fait du compost?
Alors, le compost, on le fait à partir des déchets organiques qu'on a. D'abord, il faut faire un mélange de départ qui soit approprié avec un rapport carbone-azote qui soit approprié, c'est-à-dire ce qui a beaucoup d'azote, c'est les feuilles de salade, le gazon, etc. Ce qui a beaucoup de carbone, c'est le bois. Donc, on fait un mélange assez équilibré. Important aussi, c'est qu'on ait une certaine structure pour que l'air puisse circuler dans le tas de compost. Donc, on ne peut pas faire du compost avec que du gazon ou avec que des feuilles de salade. Alors, on va faire ce mélange de départ, un mélange idéal, si on veut bien. Comme exemple, ce serait entière de bois grossier qui est broyé, entière de bois fin avec de la paille, aussi un peu broyé, et puis entière de déchets de légumes, par exemple. Ça ferait un bon mélange de départ.
Ok. Et du coup, là, on le fait quoi? On fait en tas? On fait des couches différentes?
Moi, je préconise de faire ça en tas, un mélange homogène qu'on fait en tas. Alors, suivant la dimension qu'on a, on peut faire ça dans des petits silos ou des petits récipients. Et puis dans les grandes exploitations professionnelles qui font plusieurs milliers de tonnes, ça sera des gros tas. Donc, on peut varier. La biologie, elle est la même partout, mais après, faut adapter son système de travail à la quantité des produits qu'on a.
Ok. Et donc, on brasse ce tas une première fois, on le laisse là, et ça prend combien de temps de composter ?
Alors, ça dépend un peu de l'intensité de travail qu'on fait, et ça dépend aussi des matières. Le bois met beaucoup plus de temps à composter que les feuilles de salade, par exemple. Alors, on va faire ce mélange de départ, on va régler l'humidité. L'humidité est un point très important. Si on n'a pas assez d'humidité, la biologie ne peut pas se passer. Si on a trop d'humidité, on a l'air qui ne circule plus dans le tas. Donc, ça, c'est un peu la base qu'il faut apprendre avec beaucoup d'expérience. On arrive à faire ça sans trop de difficultés. On peut la régler assez facilement. On a la règle du poing, comme on dit. On prend du compost dans la main et puis on serre le poing très fort. Si l'eau coule entre les doigts, il est trop mouillé. Quand on rouvre la main, s'il reste ensemble comme une motte, l'humidité est parfaite. Et puis si la motte se casse, il est trop sec. Donc en général, avant de brasser son tas, car comme je le dirai après, on brasse plusieurs fois son tas pour faire le compost. En général, avant de brasser le tas, on prend du compost à l'intérieur du tas et puis on regarde l'humidité. Et puis suivant les cas, on va rajouter de l'eau avant de brasser ou pendant le brassage.
Ok, donc bon rapport carbone-azote, bien mélangé au départ, l'humidité.
Voilà.
Et après, du coup, on laisse tranquille combien de temps ?
Alors, si on fait son mélange au départ comme ça, l'avantage de faire un mélange d'une fois, quand on va d'abord collecter les déchets, on va collecter d'une part du bois, de l'autre côté les déchets qui n'ont pas vraiment de structure. Et puis après, on va faire son mélange. Et puis, en faisant le mélange d'une part, la biologie va directement commencer, et puis le tas va monter en température. Donc on va attendre 60, 70 degrés au centre du tas. Et c'est une température qui est assez importante parce que ça nous permet de détruire toutes les graines de mauvaises herbes ou tous les agents pathogènes qui pourraient venir avec les déchets des plantes. Donc après, ça nous donne en compost qui est hygiéniquement propre. Ça, c'est un point assez important. Puis on contrôle la température régulièrement. Après, on va brasser le compost au début du processus un peu plus souvent, et puis plus la maturation est avancée, plus la biologie est lente, et plus on peut espacer les brassages. Par exemple, pour un petit compost, si je pense au compost qu'on fait à la maison, comme moi je fais du compost aussi à la maison, général, je fais mon mélange de départ. Température va monter dans le tas au centre jusqu'à vers 65 degrés. Après une semaine, en général, je fais le premier brassage. Parce que là, il y a beaucoup d'activité. Et puis là, faut souvent remettre pas mal d'eau parce que au début, avec cette haute chaleur, le tas s'assèche. Donc, je vais rajouter de l'eau après, lors de ce premier brassage. Et après, je le laisse tranquille pendant 2 ou 3 semaines. Je fais le deuxième brassage. Puis après 3 mois, je fais un troisième brassage. Et puis après 4-5 mois, il est fini. Je peux le tamiser. Donc, tamiser, c'est-à-dire qu'on va enlever les plus gros bouts de bois qu'on a mis dedans au départ pour avoir une bonne structure. Et ces bouts de bois, je les remets au départ dans le prochain compost. Ce qui permet d'inoculer aussi le compost avec les micro-organismes qui sont adaptés à nos propres déchets, ce qui fait que la biologie démarre aussi plus rapidement après.
Ok, donc on garde un petit bout du compost d'avant,
voilà,
pour
celui d'après. Les bouts grossiers, oui.
Et du coup, ça veut dire qu'au bout de quelques fois, le bois, il va quand même finir par être décomposé.
Bien sûr, j'ai toujours un autre bout de bois, parce qu'on a toujours du bois neuf. Un point aussi important, c'est de planifier son compostage sur l'année. Parce que pendant l'hiver, on aura beaucoup plutôt de déchets ligneux, de coupes de bois, etc. Et l'été, on aura que du gazon, des feuilles de salade, etc. Le bois, on peut bien le stocker, c'est pas un problème, alors que les feuilles de salade ou le gazon, on peut pas le stocker. Donc ça, il faut le travailler tout de suite. Donc on va faire une réserve de bois l'hiver pour avoir assez de bois pour pouvoir faire son mélange optimal pendant toute l'année.
Ok. Ouais, donc on garde les tas de bois, les tas de taille.
Et puis on va les broyer.
Exprès compost.
Voilà, puis on va les broyer juste avant de mettre en tas. Le broyage, c'est assez important. Ce qui est important, c'est de broyer, donc d'éclater le bois et pas de le couper. Parce que si on le coupe, ça fait des surfaces très lisses et les micro-organismes n'arrivent pas bien à attaquer les surfaces lisses. Alors que si on le déchique, si on l'éclate, à ce moment-là, ça a une meilleure structure et les micro-organismes peuvent attaquer. Évidemment, tout le monde ne peut pas s'acheter un broyeur pour faire quelques centaines de litres, mais les broyeurs, soit on peut l'acheter en commun parce qu'on n'en a pas besoin tous les jours et puis on peut se le louer, soit suivant où, il y a des les communes qui ont des broyeurs ou des paysagistes qu'on peut emporter le broyeur pour quand on en a besoin.
Est-ce que ça vaudrait la peine, si on a du coup, nous, nos propres déchets de tonte et autres, d'aller acheter un peu de BRF quelque part pour faire du compost ou...
Oui, on peut aller acheter, mais on peut aussi, souvent, on a toujours des déchets de haies ou comme ça, et puis du BRF ou bien sur une compostière, quand ils broient assez souvent, on peut aller leur chercher un peu de broyat, ça c'est... Même souvent, ils vont le donner pratiquement gratuitement, c'est pas vraiment le problème.
Ok, donc ça se trouve pour avoir tout ça. Donc planifier, et puis donc ça prend 3-4 mois pour que ce soit mature.
Ouais, entre 3 et 6 mois, ça dépend un peu des intrants, et puis... Et puis donc de la santé, comment le processus s'est déroulé. Si on a le temps que ça sèche au départ, après 6 mois, il y a rien qui va se passer. Donc c'est important de bien gérer l'humidité du tas et puis les brassages pendant tout le processus. Puis après on peut regarder, il y a des tests assez simples qu'on peut faire même à la main. On peut regarder déjà à l'œil. La tête de son compost, s'il est encore très fibreux ou bien puis qu'on reconnaît pratiquement les matières qu'on a mis dedans au départ, eh ben c'est du compost qui est pas encore mûr. Un compost bien mûr, s'il a bien réussi, il est déjà grumeleux, on reconnaît encore les bouts de bois, mais autrement on voit plus les bouts de paille ou comme ça dedans. Donc on peut à l'œil nu, après on peut le sentir aussi au départ. En compost jeune, il va plutôt sentir l'ammoniaque, parce que les protéines, quand elles sont décomposées, elles sont d'abord décomposées sous forme d'ammonium, et puis après, quand le compost devient bien mûr, il va plutôt sentir comme du sous-bois, comme au sol de forêt.
Ouais. Plus les champignons, du coup, qui viennent agir.
Exactement. Donc ça, on peut le reconnaître. Puis aussi, si on prend les petits bouts de bois dans les doigts, et puis qu'on essaie de les casser, s'ils sont encore très jeunes, ils sont encore tout blancs, et puis à l'intérieur, puis ils se cassent, on voit qu'ils sont pas dégradés, puis un compost bien mûr, on peut pratiquement le décomposer entre les ongles, et puis si on presse, il y a un peu du jus qui sort. Donc on arrive comme ça avec des tests simples, sans avoir une infrastructure très coûteuse, à évaluer un petit peu l'état de maturation de son compost. Et puis on conseille toujours de faire des tests avec des plantes. Nous on recommande par exemple le test du cresson. Donc on a deux tests de cresson. On a le test normal où on met du cresson, on met du compost dans son petit pot, on met du cresson dessus pour regarder comment il pousse. Et puis l'autre test, c'est le cresson fermé, comme on appelle. Là, on prend une bocal à confiture, chose comme ça. On remplit à moitié avec le compost. On met le cresson dessus et puis on humidifie et on ferme la boîte hermétiquement. Et ça, c'est un test qui est beaucoup plus sensible parce que là, le cresson ne réagit pas seulement au contact du compost, mais aussi avec les gaz du compost qui peuvent encore se développer. Et là, seulement les composts très mûrs permettent la croissance du cresson dans cette condition-là. Donc, c'est des tests simples, ils coûtent pas cher, qu'on peut faire soi-même. On compare toujours le résultat de son compost avec un substrat dans terreau qu'on aura acheté ou comme ça pour voir. Et puis, c'est des tests simples que tout le monde peut faire.
Ok, puis le test, c'est que si ça marche la même chose entre le terreau qu'on a acheté et notre compost, c'est qu'il est mûr et qu'on est bon.
C'est à peu près la même chose, ouais, c'est exactement.
Ok. Sur l'humidification, est-ce qu'on humidifie seulement quand on brasse ou est-ce que si on se rend compte que c'est sec, là par exemple il ne pleut pas depuis des jours et des jours, si j'imagine que j'ai fait mon compost il y a un mois, est-ce que là je dois l'arroser aussi ou comment?
Ouais, pour l'arroser, si on l'arrose, c'est bien de le brasser en même temps. Okay. On peut brasser plus souvent que 3 ou 4 fois, c'est pas un problème. Parce que ça permet de bien répartir l'eau dans tout le tas. Sinon, on aura des parties trop mouillées, des parties trop sèches, on fait seulement d'arroser dessus. Un point aussi bien, c'est de couvrir le tas avec ces bâches géotextiles, donc pas avec du plastique. Le plastique, c'est très mauvais parce que ça permet pas les échanges d'air. Il y a des bâches à compost, des bâches en géotextile qui permettent un échange d'air. Et puis l'été, quand il fait très chaud, ça permet un peu de freiner l'assèchement du tas. Et puis si on a des grosses pluies, l'eau elle va s'écouler sur les côtés, puis on n'aura pas le compost soit trop mouillé. Donc ça, c'est quelque chose à conseiller si on a un tas de plus quelques mètres cubes, de faire quelque chose comme ça. Ou bien si on a un jardin privé, on a ces composteurs en plastique qui sont à double paroi, qui sont un peu isolantes. Là, il y a un couvercle dessus, donc on arrive comme ça aussi à gérer. Donc on peut choisir différents systèmes. On peut faire du bon compost avec énormément de systèmes, mais on peut faire du mauvais compost avec tous les systèmes. Donc c'est pas le système qui est important, c'est comment on le travaille. Hein. C'est ça le point important. Et puis il y a environ 40% de théorie à savoir, et puis le reste c'est l'expérience, la pratique, et puis voilà.
Puis de commencer peut-être avec des tas pas trop grands. Pour c'est quoi la taille minimum, ou est-ce qu'il y a
C'est bien de commencer avec des tas qui sont assez grands. Je veux dire en demi mètre cube, en mètre cube, ou bien c'est isolé. Parce que plus le tas est petit, plus la surface est grande par rapport au volume. Donc plus c'est difficile de le faire monter en température. Dans mon jardin privé, j'arrive pas à avoir une même température dans tout le tas comme une grande compostière professionnelle. Donc il y a des choses que je mettrai pas dedans, les plantes malades comme avec l'année du chou, ou bien des mauvaises herbes difficiles, ou des plantes invasives, je les mettrai pas dans mon compost privé parce que j'arrive pas à avoir tout à fait la même hygiénisation qu'une grande compostière parce que mon tas est trop petit. Par contre, sur une grande compostière, il peut mettre tout est hygiénisé après, parce que c'est des grands tas. Parce qu'on a toujours à peu près les 10 ou 15 centimètres à l'extérieur du tas qui va pas monter en chaleur. Donc, évidemment, si ça correspond à 50% de son tas, on aura un problème. Par contre, si ça correspond à seulement 5% du tas, on aura une autre répartition de la chaleur. Donc ça, c'est des points un peu à regarder.
Ok, donc pas commencer trop petit non plus et puis avoir bon, plutôt un tas qui est...
Ces systèmes de compostage qu'on peut acheter dans toutes les grandes surfaces pour les jardins privés, ça marche assez bien. Et puis après, pour une petite ferme de maraîchage ou comme ça, on va adapter la grandeur du système à la matière qu'on a.
Ouais. Par rapport au lieu où on le fait, est-ce qu'il faut protéger les sols? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se lessive et puis il faudrait être attentif à ça? Ou est-ce qu'il faut faire sur du béton, sur une bâche?
On peut le faire sur différentes surfaces, on peut le faire sur du béton, on peut le faire aussi sur la terre. C'est pas vraiment un problème. En général, si on fait sur la terre, on va essayer, soit le terrain où on le fait, il peut protéger de la pluie ou comme ça. Ou bien alors, si on fait comme ceux qui font du compostage en bord de champ, ils doivent changer toujours d'endroit. Donc on peut employer en bord de champ pendant une année, et puis après pendant 2 ans, on doit le laisser tranquille, justement pour éviter qu'il se surfertilise. Donc on va faire un tournage. En général, dans les petites exploitations, on trouve une place qu'on peut protéger, et puis on peut le faire toujours un peu à la même place. S'il est un peu en dur, avec des dalles en béton ou quelque chose comme ça, c'est plus facile pour travailler. Pour le brassage et tout ça, c'est plus facile, mais c'est pas vraiment nécessaire. Et puis, s'il est sur la terre, ça va pas aussi influencer bénéfiquement ou négativement le tas de compost. On va inoculer, comme j'ai dit avant, le tas de compost au début avec ses refus de tamisage, et puis ça suffit complètement. Et puis après, avec le système qu'on a, il va s'adapter à ce qu'on fait. Maintenant, il y a encore un autre système peut-être qu'on peut composter aussi si on n'a pas beaucoup de structure, c'est l'ombricompostage. Alors ça, c'est un système où c'est des vers à compost qui vont faire le travail. Et puis chaque fois, les vers à compost, quand ils ont fini une partie du tas, et puis que le tas est mûr, ils vont aller dans la matière la plus fraîche. Donc ça, c'est bien. On peut composter aussi des matières sans trop de structure. Il faut avoir assez de vers, mais ils se multiplient assez rapidement. Le seul inconvénient de ce système-là, c'est qu'il reste froid tout le temps.
Ouais. Donc il n'y a pas la stérilisation.
Donc, on n'a pas l'effet stérilisation. Donc faire un peu plus attention à ce qu'on met dedans, pas mettre des matières problématiques dans le tas si on fait du lombricompostage. Moi, je trouve ça dans le compost qui est très riche. C'est vraiment en engrais parce que tous les éléments fertilisants restent dedans. Donc c'est des composts très riches et qui sont intéressants aussi comme fertilisants.
Et puis ça peut être fait à plus petite échelle du coup, par exemple sur un appartement.
L'appartement, on peut le faire. Okay. Il y a des systèmes qu'on peut acheter, des systèmes de avec donc, 3 tamis, et puis on remplit le tamis du bar, et puis quand il est plein, on met les verres dedans. Quand il est plein, on remplit le deuxième tamis, et puis le troisième. Puis quand le troisième est plein, celui d'en bas, il est fini, donc on peut le servir, et puis on fait comme ça un système qui tourne indéfiniment. Mais dans le compost d'appartement, je trouve une bonne chose, mais seulement si on peut utiliser le compost. C'est-à-dire quelqu'un qui habite en ville et puis qui n'a pas de jardin ou comme ça, je vois pas très vraiment l'utilité de faire du compost soi-même. Donc là, c'est mieux de donner ses déchets verts à un compostier professionnel qui fait du compost de qualité régulière en grande quantité, qui peut après le revendre aux particuliers.
Aux particuliers. Ça peut être intéressant si on a des grands bacs sur un balcon ou un petit bout de potager à côté.
Aussi, un point important, c'est de pas surfertiliser ses sols avec le compost. Je vois souvent dans les petites exploitations ou bien les privés, on met beaucoup trop de compost dans le champ. Dans le jardin, c'est une couche d'environ 1 à 2 cm d'épais par année, ça suffit complètement. Okay. Donc, pas mettre des couches de 10 ou 15 cm. C'est comme ces nouvelles techniques qu'on trouve aussi sur Internet où ils mettent du carton par terre, puis après ils mettent 40 cm de compost, ils mettent les plantes directement dessus. C'est quelque chose qui est aberrant et puis qui est beaucoup nuisible aussi pour l'environnement parce qu'on surfertilise totalement son sol. Et puis ça, c'est une technique que je ne peux pas cautionner.
Cautionner ou conseiller.
Voilà.
C'est quoi le risque? La surfertilisation, ça veut dire quoi? Parce qu'on peut se dire, plus il y a à manger, mieux c'est.
Non, mais si on donne trop à manger, d'abord la plante. Une plante surfertilisée, surtout en azote, eh ben, elle peut être aussi plus sensible aux maladies. C'est comme nous, si on mange trop, on n'est pas en meilleure santé que si on ne mange pas trop. Et puis, en plus, c'est les risques pour l'environnement, parce qu'il y a trop d'éléments fertilisants. Quand il pleut, tout va être lessivé. Donc, ça va dans le sol, ça va après dans la nappe phréatique et tout ça. Donc, il faut un équilibre. Donc, on va essayer de fertiliser son compost en lui redonnant ce qu'on va enlever avec les plantes pour pas avoir une surfertilisation.
D'accord. Et quand on parle ici dans le micro-maraîchage, il y a des fois des gens qui récupèrent des terrains qui ont été surexploités et du coup il y a peu de matière organique. Est-ce qu'à ce moment-là ça justifie d'apporter des quantités de compost qui sont plus grandes ou...
On peut faire au départ un apport un peu plus important au départ, mais pas non plus mettre des quantités énormes. Et puis le mieux, c'est de mettre régulièrement des quantités pour que le sol se reforme petit à petit. Et puis se réactive surtout. Donc ça, c'est des points qui sont intéressants. Là, j'ai actuellement un projet au Sri Lanka, où les sols ont été totalement surfertilisés pendant des décennies. Et là, le premier but du compost, c'est de réactiver les sols pour qu'après, les autres engrais organiques qu'on mette dedans puissent être digérés par le sol. Ça, c'est un point assez important. Donc, le sol, il faut le développer petit à petit. On peut pas en une saison refaire le sol, mais on voit vite après 3-4 ans comment le sol se réactive, comment la structure est meilleure, comment il retient mieux l'eau si on fait un équilibre avec le compost. Et le compost est seulement un des facteurs de la fertilité du sol. Après, il y a le travail du sol qui va jouer un rôle, il y a la rotation de ces cultures qui va jouer un rôle. Donc le compost est une partie importante, mais c'est pas la seule chose. Donc il faut regarder un peu l'ensemble, avoir une pensée un peu holistique pour que son sol soit de bonne santé.
Et est-ce qu'il y a des... ça change quelque chose le moment dans l'année où on fait le compost? Est-ce que ça change quelque chose le moment dans l'année où on le met dans le sol?
Oui, non. Donc on peut faire le compost toute l'année, c'est pas vraiment un problème. C'est sûr que plus le temps est petit et puis plus on est en hiver, plus c'est difficile de monter en température. Suivant les régions comme dans les Hauts du Jura par exemple ou comme ça, qu'il y a beaucoup de neige l'hiver, c'est difficile de faire un compost en extérieur parce qu'il y a trop de neige qui va empêcher un peu le processus. Mais autrement, ça joue pas vraiment un rôle. Au niveau de l'utilisation, ça peut jouer un rôle au niveau de la qualité du compost. C'est-à-dire que un compost avec un peu de matière ligneuse, quand il est très jeune, si le bois n'est pas encore complètement décomposé, il peut bloquer l'azote. Donc, si on met un compost comme ça, au printemps, dans les sols froids, avec des cultures qui ont besoin de beaucoup d'azote, comme des salades ou comme ça, ça peut freiner la culture. Par contre, si on met ce même compost après les moissons dans un champ, il va fixer les résidus d'azote qui sont après la culture, les incorporer, puis après 2-3 semaines ou un mois, il va déjà les redonner. Donc, ça, c'est pas un avantage. Donc, le même compost, suivant pourquoi on l'emploie, peut être un avantage ou un inconvénient. Comme un compost qui bloque beaucoup l'azote, c'est un très bon produit à mettre, par exemple, dans les petits pois. Parce que les petits pois n'ont pas besoin d'azote, puisqu'il le fixe lui-même avec la symbiose avec les bactéries. Et puis le compost, comme en surface ou dans les premiers 5-10 cm qui vont bloquer l'azote, ça va freiner les mauvaises herbes. Donc, dans ce cas-là, ça peut être un avantage.
C'est bénéfique pour tout le monde. Ouais.
Voilà. Par contre, ce même compost, vous mettez dans vos salades au début du printemps, eh ben, vos salades vont pas pousser. Donc, c'est, il n'y a pas un bon ou un mauvais compost, mais il y a un bon ou un mauvais compost suivant l'utilisation qu'on va faire avec son produit.
Ok, donc c'est aussi connaître les besoins de la plante et connaître aussi le compost qui, du coup, si je comprends bien, plus il est mature, plus il y a d'azote dedans.
Libre. Mais un compost, c'est jamais un produit qui a énormément d'azote.
Okay,
mais au moins, il va pas bloquer l'azote. Donc, ça, c'est un point aussi, aussi important. Donc, il faut réfléchir de manière logique. Voir ce que les plantes ont besoin, quelles plantes on va mettre, et puis réfléchir quel compost on va utiliser.
Et s'il n'a pas énormément d'azote, qu'est-ce qu'il apporte en fait aux plantes, ce compost ?
Beaucoup de phosphore, potassium. Donc toute la fertilisation de base, elle peut être faite avec du compost, à l'exception donc de l'azote. Des fois, on rajoute un peu d'azote dans les cultures, comme les salades, ou comme ça, comme on a pas mal d'azote, on peut rajouter un peu de racture de corne, d'autres choses comme ça, en complément du compost pour amener l'azote. Mais autrement, le compost, il amène donc tous les autres éléments. Il amène aussi beaucoup d'oligo-éléments qui sont bien pour la santé de la plante aussi. Et surtout, il va aussi améliorer la structure du sol. Donc, on aura une meilleure structure, on aura une meilleure aération du sol, on aura une meilleure rétention d'eau quand il fait des périodes sèches comme maintenant. Donc, il amène différents aspects, puis il amène, comme on l'a dit au début de l'interview, là, des micro-organismes utiles qui vont diminuer les maladies des plantes. Donc, il amène beaucoup de choses.
Et comment on l'utilise ? On met juste une couche de 1 ou 2 cm sur son sol, on doit le mélanger au sol ?
Alors le compost, il faut l'incorporer dans les premiers 3, 4 cm, 5 cm du sol. Parce que si on le met juste en surface comme l'été, comme maintenant, et puis qu'il s'assèche, on va perdre son activité biologique, et puis une partie de l'azote ou comme ça qui peut être évaporée. Donc on va vraiment l'incorporer dans les premiers 4, 5 cm. On peut aussi mettre du compost dans les trous de plantation, dans les tomates par exemple, ou bien dans les arbres fruitiers. Mais là, on ne mettra jamais du compost pur dedans. On va le mélanger avec la terre du sol à 50-50, ou bien 30% de compost, 70% de terre du sol. Parce que si on a une couche avec que du compost dans le sol, les racines ne aiment pas ça, c'est trop concentré pour elles. Donc on mélange 50-50 avant les tomates, on fait un petit mélange entre la tête du sol, on fait 50-50, et puis dans le trou de sol, on mettra une poignée de ce mélange dans chaque trou de plantation des tomates, par exemple. Ça, c'est une bonne chose, surtout pour les petites exploitations maraîchères, c'est ce qui peut se faire de manière pratique.
Ouais. Et puis, alors, tu sais que tu déconseillais de mettre 40 cm de compost sur du carton, mais il y a des fois des personnes qui disent « Ok, on prépare notre planche, puis on met peut-être 2-3 cm, puis on plante les carottes dedans, par exemple. » C'est quelque chose que tu conseilles, qui marche
ouais, ou... Je préfère le... J'aime pas avoir du compost pur, toujours le mélanger avec la terre du champ. C'est là que ça marche le mieux. Et puis aussi dans le sol, c'est aussi les interactions, les parties physiques du sol, comme les argiles. Donc les complexes argilo-humiques, il faut une partie minérale, une partie organique. Donc c'est là que ça pousse le mieux. Donc et même dans ces plantes en pot, on mettra jamais que du compost dans les plantes en pot. On va mélanger avec un peu de terre ou avec des fibres de coco, choses comme ça, pour avoir un mélange plus approprié.
Ok, donc toujours plutôt l'utiliser mélangé que
mélangé, que
pur. Et puis moi j'avais entendu que il y a des plantes qui aident pour faire démarrer, par exemple les orties ou la consoude, des choses comme ça qu'on peut rajouter dans son compost pour que ça se passe mieux. C'est vrai, c'est de la croyance populaire.
Ça fait pas des grandes différences si on a un bon mélange. Je pense que pour la consoude ou pour l'ortie, c'est mieux de faire son purin d'ortie pour après traiter ses plantes comme ça. Mais je ne fais pas de grande différence. Alors, mon mélange de départ, il va démarrer très bien, même si on n'a pas ces produits dedans.
Ok, donc il n'y a pas besoin de se piquer les mains pour aller...
Ça dérange pas. Non, ouais. Ça dérange pas.
Ouais, ça fait du frais en plus, mais pas, c'est pas fondamental. Ok, qu'est-ce qu'il y a comme autre conseil qu'on peut donner aux gens qui ont une exploitation et qui... Est-ce que ça vaut la peine de faire son compost ou est-ce que c'est mieux d'aller l'acheter dans ces grandes compostières maintenant qui vont travailler différemment?
Alors, les grandes compostières, il faut voir lesquelles. Hein. Il y en a qui font des excellents composts, mais il y en a des autres qui font des pas très bons composts. C'est comme un restaurant, des qui font très bien à manger et puis d'autres où c'est limite ce qu'on mange là-bas. Donc c'est un peu la même chose, donc avoir un bon contact avec la compostière. Maintenant, c'est une question aussi de volonté et puis aussi de capacité. Faire du compost, ça donne du travail. Donc, si on veut faire son propre compost soi-même, ben, il faut investir du temps. Donc, une possibilité, c'est soit qu'on se mette à 3-4 petits maraîchers, puis qu'on se fasse le compost, une petite place de compostage ensemble, et puis on se fait une rotation qui va brasser le compost, etc. Et puis autrement, si on n'a pas vraiment le temps de le faire, une possibilité aussi, c'est de travailler en collaboration avec une compostière locale qui fait du bon produit, et on lui amènera les déchets verts et puis on prendra du compost. Après, c'est des choses à gérer, aussi financièrement. C'est sûr que la compostière ne fait pas ça gratuitement non plus, donc voir un peu quelle relation on peut avoir. Il y a deux possibilités, mais si on fait son compost soi-même, il faut le faire comme il faut. Que ça soit un jardinier amateur dans son jardin, ou bien que ça soit une micro-ferme ou une grosse ferme, c'est toujours la même chose. Soit on se donne la peine, on fait comme il faut, et puis après c'est une question de capacité. Mais c'est bien si on peut se mettre à plusieurs. Aussi, on a plus de matière. C'est plus facile de faire en tas avec 3 mètres cubes de compost que de faire 200 litres de compost, parce que on a plus, enfin, un meilleur mélange, on a plus d'inertie, on a moins de surface par rapport au volume, donc c'est plus facile de faire une quantité un peu plus grande. Ouais. Donc après, c'est à voir quelles sont les situations locales, quelles sont les possibilités.
Et donc sur une petite exploitation, on a presque meilleur temps d'en faire 2-3 fois par année en capitalisant justement, puis en ayant assez de matière, plutôt que d'essayer de gérer sa matière, au fil de l'eau, comme ça, ou au quotidien.
Ouais, je veux dire, on va collecter les déchets, et puis dès qu'on en a assez, on va faire le mélange de départ pour démarrer. Mais comme j'ai dit avant, il y a des matières qu'on ne peut pas stocker longtemps. Donc, soit on les, dans le stockage, on mettra uniquement un peu de bois ou un peu de refus de tamisage pour le maintenir un peu en forme jusqu'à qu'on fasse un tas de compost. Et puis après, on va démarrer son compost. On va très bien faire du compost tous les 3 mois, commencer un nouveau tas. Ça dépend, on peut voir, pour chaque situation, les déchets, la quantité qu'on a, voir qu'est-ce qui est le mieux, quoi.
Ouais. Et puis dans ces compostières, des fois effectivement on en trouve qui ont passablement de déchets de plastique ou autre. Ouais. Ça vient d'où? Et puis c'est du coup est-ce que ça vaut la peine d'en mettre dans son jardin, ou est-ce qu'on est en train de semer du plastique?
Le plastique, ça, c'est un gros problème dans beaucoup de compostières. Ça vient des intrants, évidemment, de ce qu'on met dedans. Et puis c'est souvent des déchets de la ville, les tournées vertes des villes. Les gens, les responsables, c'est pas les compostières, c'est les gens des villes ou des grands villages ou de là qui ne trient pas de manière propre leurs déchets verts, et qui après les mettent dans le compost communal. Donc après, les compostières doivent se battre pour enlever ces plastiques. Ils trient au départ, et après, lors de la tamisage, ils ont des grosses machines avec des aspirateurs pour enlever les plastiques. Mais c'est toujours difficile d'enlever les plastiques qui sont dedans. Alors, en général, souvent, les compostières qui sont près des villes ont plus de problèmes de plastique. Les compostières qui sont plus rurales, qui ont plus des déchets horticoles ou de paysagistes, en général, eux, ils ont beaucoup moins de plastique dedans. Et après, ça dépend comment la compostière, elle travaille. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut facilement juger. On voit bien le compost, s'il y a du plastique dedans ou pas, on le voit à l'œil nu. Donc après, c'est à nous de choisir quelle compostière on va prendre. Et puis, probablement, une compostière qui fait un compost plus mûr, de meilleure qualité, le compost sera plus cher. Il y a des compostières qui donnent le compost gratuitement. Après, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on veut du compost de mauvaise qualité avec du plastique gratuit, ou bien payer 30 ou 40 francs par mètre cube pour du compost de bonne qualité? Après, chacun doit choisir lui-même. Moi, je préfère dans mon jardin mettre du compost qui coûte 40 francs mais qui est de très bonne qualité, plutôt que de prendre du compost de qualité médiocre. Parce que une fois que j'ai mis le mauvais compost dans mon champ, eh ben, il reste dans le champ. Donc après, c'est chacun choisir un peu selon ses visions.
Ouais, effectivement. Et son budget, quelque part, aussi les contraintes.
Et son budget, mais le budget, il faut le calculer aussi à long terme. Et puis, je veux dire, même s'il coûte 30 francs par mètre cube, on met pas des centaines de mètres cubes dans son champ. Donc, il y a d'autres frais qui sont plus importants que ça. Donc, c'est comme pour tout, il faut voir où est-ce que ça vaut la peine d'économiser, et puis où ça vaut pas la peine d'économiser.
Ouais, et puis ton conseil, c'est de pas économiser là-dessus, dans le sens où à long terme,
voir aussi choisir une compostière qui a du bon produit, mais le faire soi-même ou comme ça. Mais dans toute la Suisse des bonnes compostières, et puis surtout les petites locales qui sont un peu plus rurales. Et puis aussi des grosses compostières près des villes qui donnent tellement beaucoup de peine, et puis qui font aussi du bon produit. Donc après, c'est à voir, aller visiter l'installation, discuter avec le gars, lui dire ce qu'on a besoin, et puis après, il y a une relation de confiance qui se met en place.
Ouais. Et donc, petite dédicace aux gens qui jettent leurs déchets verts, de faire un peu gaffe à trier leur plastique et ce
Exactement,
qu'on met dedans.
Ça, c'est un point important. Et puis, il y a des points aussi qu'on pense pas, mais par exemple sur les pommes ou sur les tomates, pas les tomates mais les pommes ou les bananes bio par exemple, mettre juste des petits autocollants dessus où c'est marqué bio ou c'est marqué Max Avelard ou je sais pas quoi. Et ça, c'est des ces petits plastiques là, eh ben on n'arrive plus à les enlever dans le compost, on les laisse. Donc il faut les enlever avant de mettre sa cette épluchure de banane ou d'orange. Il faut enlever ces petites étiquettes parce que même avec des systèmes de filtration ou d'aspiration, elles ont la même densité que le compost, ils n'arrivent plus à les enlever. Et donc, chacun doit être un peu responsable. Et puis, faut aussi, on essaie de motiver aussi des grandes surfaces pour trouver des autres solutions que de tout mettre dans les légumes, dans des plastiques. Ça, c'est aussi un problème de société où il faut avancer.
Ouais, effectivement. Et est-ce qu'on peut tout mettre dans son compost ou est-ce que, par exemple, je sais pas, de la viande, est-ce que ça se met ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on met dans son...
La viande, on ne mettra pas dans le compost. On ne va même pas mettre tous les déchets cuits ou comme ça dans les composts. On va le mettre plutôt dans les grosses installations de méthanisation. Le problème de la viande dans son compost privé, d'une part, on a vu des problèmes d'odeur, et puis c'est très concentré en protéines, donc ça fait des odeurs, et puis on va attirer toute la faune sauvage de la région, et puis ça fera du chenil. Donc et puis pour les questions d'hygiène, on met pas ça non plus. Ils sont traités spécialement dans des installations spécialisées, donc on va pas mettre tout ce qui est raw, tout ce qui est pas cuit, on peut le mettre dedans, mais tout ce qui est cuit, les restes de repas, on va pas mettre dans le compost privé ou bien les restes de viande, on va pas mettre dans le compost privé, ou même une compostière qui fait du bord de champ, une grande, elle prendra pas les déchets de cuisine, ce genre de choses. Ça, c'est traité spécialement par d'autres installations.
Ok, même si c'est pas de la viande, c'est-à-dire que nos spaghettis, sauce tomate, il reste un peu...
On va pas les mettre dans le compost. Bon, c'est toute petite quantité, on va pas... C'est pas un problème. De principe, on met pas ces déchets-là. Et en plus, faut attendre parce que pour la salinité, parce que dans les spaghettis on met toujours du sel de cuisine. Le sel de cuisine, les plantes elles peuvent rien en faire du sel de cuisine, et ça fait vite des relativement grandes quantités si on calcule après si on remet ça dans son terrain. Donc c'est aussi un point qu'on va pas mettre, surtout en maraîchage. On met un petit peu plus de compost que dans les grandes cultures. On va pas chercher des produits qui sont pas trop salés avec du sel de cuisine.
Ok. Et donc ça veut dire que même pour les privés, quand on amène notre compost, on devrait éviter de mettre tout ce qui est cuit aussi dedans.
Ça dépend les compostières. Il y en a des qui ont le droit de les prendre et qui n'ont pas le droit. Ça dépend un peu leur système et comment ils travaillent, quoi.
Ouais. Et puis une dernière question sur les privés qui jettent leur compost. On a ces sacs en plastique soi-disant compostables.
Ouais,
c'est bien, c'est pas bien.
Ils sont justement pas en plastique. Hein.
Ouais.
Alors c'est très... ils se dégradent pas si mal que ça s'ils sont vraiment au centre du tas avec une bonne humidité, mais le mieux c'est si on collecte ses déchets sans ces sacs. Les compostières, souvent les grandes compostières n'aiment pas trop ces sacs parce que souvent ils sont mélangés avec d'autres sacs, ou bien ces sacs ils sont pas très résistants, donc les gens, comme ils se cassent des fois à la cuisine, ben ils mettent un sac en plastique normal à l'intérieur, donc c'est pas vraiment une solution. Donc le mieux c'est si on peut collecter dans des bacs normales et puis après le vider dans là où on collecte les déchets.
Parfait. Où est-ce que les gens peuvent aller chercher de l'information s'ils ont envie d'aller un peu plus loin là-dedans? Est-ce qu'il y a des sites, des brochures, des livres?
Ben, il y a mon site internet privé, labiofit.ch, où on peut trouver beaucoup d'informations, où on peut télécharger. J'ai même fait un petit film sur comment composter à la maison, ou bien un film aussi sur la collecte des déchets avec le problème des matières étrangères. Nous sommes tous responsables. Et puis il y a des informations là. Autrement, il y a beaucoup de livres sur le compostage qu'on trouve un peu partout. Ça, c'est pas un problème.
Ok, eh ben, je mettrai le site en lien sur la page du podcast.
Très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens doivent absolument savoir sur le compost? Parce qu'on a déjà fait un tour un peu complet.
Ben, ils doivent juste savoir que c'est un produit vraiment de valeur si on le fait et si on l'utilise convenablement. Et puis ça, c'est un point important. Et puis, de manière générale, recycler tous les déchets. C'est important, pas seulement les déchets organiques, mais aussi les différents plastiques, les différents métaux, etc. Si on veut assurer à long terme de pouvoir survivre sur cette terre, quoi. Ouais. Voilà.
Effectivement, et on espère que ça aura donné envie aux gens de participer à ça et de commencer déjà par l'organique pour remettre ça sur les sols.
Très bien.
Merci beaucoup, Jacques Fuchs.
Merci, c'est un plaisir.
Merci.
La Ferme, un podcast terre à terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout, ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.